Lisons ensemble le livre de Michée, chapitre 5. Je vais commencer avec le dernier verset du chapitre 14. Si vous avez besoin d'une Bible, n'hésitez pas à lever la main. Si vous n'en avez pas, je vous invite à acquérir une propre Bible que vous pouvez utiliser tous les jours. Vous pouvez annoter, vous pouvez utiliser pour parler de Dieu et de Jésus à vos amis, vos voisins qui ne sont pas encore sauvés. Le chapitre 4, le dernier verset, c'est « Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège à coups de bâton, on frappe sur la joue le juge Israël. » Et puis, le chapitre 5, « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous enverrons contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Ils conduiront avec l'épée le pays d'Assyrie et le pays de Nimrod à l'intérieur de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. » On va poser ici. On a introduit depuis plusieurs semaines cette étude du prophète Michée, dont le nom veut dire « qui est semblable à l'Éternel ». Sous-entendu, personne. Il est unique, il est merveilleux, il est notre Dieu et c'est un Dieu magnifique. On a vu que Michée prophétisait à l'époque d'Israël quand il y avait 2 royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, le royaume du nord ayant pour capitale Samarie, étant appelé parfois Israël, et le royaume du sud ayant pour capitale Jérusalem, qui est parfois appelé Juda, car c'était la principale des 2 tribus, Juda et Benjamin. Et il y avait une division et il y a plusieurs rois qui se sont succédés. Dans le royaume du sud, il y avait le roi Jotham, Achaz ou Akaz et Ézéchias. On a rappelé que Michée vivait, était contemporain, en partie, avec le grand prophète Ésaïe. Alors je dis grand et petit prophète, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui était meilleur que l'autre. Le terme de grand fait référence, et petit, ça fait référence au volume de leurs écrits. Et c'est vrai que Ésaïe, on l'a étudié en détail, si vous voulez revoir des passages, c'est en ligne, disponible. C'est 66 chapitres. Alors que Michée, ce n'est que 7 chapitres. Ils annoncent toujours les problèmes que vont avoir les Juifs parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. On pense que ce livre a été écrit à peu près en l'an 750 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Donc ça fait un petit bail et on se demande pourquoi est-ce qu'on devrait prêter attention à ces écrits qui font référence plutôt à l'Antiquité. C'est parce qu'en fait, Dieu continue de nous parler. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est toute sa parole qui est digne de foi, qui est la vérité. C'est vrai que souvent c'est plus facile de parler du Nouveau Testament, mais en même temps, dans l'Ancien Testament, on a tout ce qui explique le Nouveau Testament. Lorsque vous lisez le dernier livre du Nouveau Testament, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, sans aucune référence au Nouveau Testament, à l'Ancien Testament, pardon, vous êtes complètement perdu. Et donc, on va voir qu'en même temps qu'il parle à Jérusalem, il parle au peuple de Dieu, et il y a des leçons pour nous à retenir. C'est la beauté de la Bible, cette harmonie qui fait que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est annoncé, et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. Il y a plein de prophéties qui sont déclarées dans l'Ancien Testament, et puis qui se réalisent dans le Nouveau Testament. On a eu il y a quelques semaines la visite de Dave Newton, qui nous a enseigné sur les prophéties de la Bible, et elles sont tellement importantes parce qu'elles valident, elles sont une preuve intrinsèque de la véracité du texte biblique. Dans les billets que nous avons aujourd'hui, un billet de 10 euros, ils étaient beaux, les billets de 10 francs. Il y en a qui se rappellent qu'il y avait sur les billets de 10 francs. Je crois que c'était Pascal. Là, on a des portes et des ponts. Mais surtout, pour vérifier que c'est juste, qu'est-ce qu'il y a à qu'on peut voir par transparence? Il y a plusieurs moyens, mais un des principaux moyens, c'est le filigrane. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est imprimé dans la masse du papier, qui fait que par transparence, on voit une tête ou on voit quelque chose. Et si vous voyez un billet qui est faux, vous n'allez pas avoir ce filigrane qui est imprimé. Et on pourrait dire qu'en fait, les prophéties, c'est le filigrane de la Bible. Parce que personne ne peut répliquer ça, personne ne peut copier ça. Alors aujourd'hui, avec les moyens modernes, on arrive, donc ils multiplient, ils font des bandes réflectorisantes, des bandes qui reflètent la lumière, comme ça si on fait une photocopie, ça éblouit la photocopieuse, ça fait une barre noire, et des principes. Mais sachez que les prophéties, c'est pas quelque chose un peu bof, c'est la fondation de votre foi dans la parole de Dieu. C'est très important, et on va y revenir. Mais là, on a vu au dernier chapitre du chapitre 4 qu'il y avait un problème à Jérusalem. Jérusalem était assiégée par des troupes. Il est dit, on nous assiège à coups de bâton, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Certains pensent que là, il s'agissait du Messie, mais en fait, le contraste avec le début du chapitre 5 montre que ce n'est pas le cas. On pense que là, il s'agissait du... Donc, pour vous rappeler brièvement, on ne va pas revenir à chaque fois sur toute la division du royaume et les déportations, mais sachez que les Assyriens ont emmené en captivité le royaume du Nord, et puis les Assyriens, qui avaient fini par symboliser l'ennemi d'Israël... Des fois, on parle de l'Assyrien comme de l'ennemi d'Israël. C'était un peuple éminemment barbare. C'était un peuple cruel. Et ce qui s'est passé avec le dernier roi à Jérusalem, de Juda, c'était le roi Sédécias. On raconte que l'empereur ou le chef, le roi de Babylone, des Assyriens, pardon, a fait exécuter les enfants du roi devant ses yeux, et puis après, il lui a enlevé les yeux. Il lui a crevé les yeux. On enlevait les yeux pour que... On a du mal à imaginer la cruauté d'un tel acte pour que la dernière vision que cet homme ait dans tout le reste de sa vie, c'est ses enfants qui sont égorgés devant lui et qu'il est impuissant. C'est ça qu'on dit, on frappe sur la joue le juge ou le roi, le responsable d'Israël. Et puis, un verset qu'on a souvent l'habitude de commenter pour Noël, « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Bethléem. Là, on précise que c'est Bethléem Ephrata, parce qu'en fait, il y avait une autre ville qui s'appelait Bethléem, dont il est question dans Josué 19, 15, qui était une ville près de Nazareth, au nord du pays. Là, la ville dont il est question, c'est une ville qui a une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Et c'était une petite ville parmi les villes de Juda. Elle était un peu insignifiante. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est clairement une prophétie messianique indiquant que le Messie va naître dans cette petite ville de Bethléem. Dans cette petite ville de Juda, de toi allait sortir. De cette ville allait sortir celui qui allait non seulement régner sur Israël, mais qui existait de tout temps. De l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Alors cette version que j'utilise simplifie un peu le texte, mais d'éternité en éternité, il y a un mot en hébreu qui veut dire le point de fuite. Lorsque vous apprenez à dessiner en faisant un effet de 3D ou de perspective, vous savez que les lignes, par exemple les lignes d'un toit ou d'une route, convergent vers un point qu'on appelle le point de fuite. L'éternité, c'est donc ce point de fuite, c'est même au-delà du point de fuite. On dit que des droites parallèles se rencontrent finissent par se rencontrer à l'infini. Quand on parle en termes de maths, alors c'est une illusion de l'esprit, mais c'est pour dire que c'est très, 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 très long, avant que des droites qui se touchent jamais finissent par se toucher. Et l'idée, c'est que quand vous avez ce point de fuite, vous pouvez penser peut-être, j'ai parlé tout à l'heure des billets de 10 euros, de 10 francs. Ah, tout le monde a ri parce que c'est vieux ça. Mais il y a des personnes parmi vous qui ont connu l'époque où on avait des francs. C'est vrai que maintenant il y en a beaucoup qui n'ont jamais connu les francs. Et on peut envisager 10, 20 ans en arrière. Maintenant, est-ce que vous pouvez penser 500 ans en arrière? 500 ans, c'est 1400. Oui, on arrive à. On voit des représentations à la télévision de choses qui se passaient à ce temps-là. Maintenant, si on passe 2000 ans en arrière, ben oui, c'était l'époque des Romains, de Jésus, on voit ça, on voit les représentations. 10 000 ans, là ça devient un peu plus compliqué. 100 000 ans. Un million d'années. Vous arrivez à représenter un million d'années? Moi, j'y arrive pas, mais. On peut en parler comme ça, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais le mot en hébreu d'éternité, c'est une fois que vous pensez aller être arrivé au bout de ce que vous pensez, être le plus ancien ou le plus loin dans le futur, ben vous n'y êtes pas encore. Vous pouvez encore aller plus loin encore. Et ce sentiment, c'est vraiment pour indiquer que ce Messie, il est éternel. On parle d'éternel, mais ça défie l'imagination. Ça défie l'imagination, et pourtant c'est ce que cette parole de Dieu nous annonce. Lorsque vous êtes, je ne sais pas si vous avez des fois des discussions, on ne conseille pas de les avoir, parce qu'en général, à moins de vouloir les convertir, les témoins de Jéhovah nous disent que Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu, qu'il est simplement la première création de Dieu. Et pourtant, Jésus, ce qui lui a causé beaucoup de problèmes, c'est lorsqu'il a dit que avant qu'Abraham ne soit, j'étais déjà. Autrement dit, il leur a dit en grec, ego emi, moi je suis. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pris des pierres pour le lapider, ils voulaient le lapider, ils voulaient le mettre à mort. Parce qu'il y avait dans la loi de Moïse des actes, des péchés qui méritaient la mort, comme l'idolâtrie, les fausses prophéties, le non-respect du sabbat, le viol, l'adultère, le meurtre, la bestialité. Et vous pouvez demander à ces témoins de Jéhovah, peut-être des amis, quelle loi Jésus avait-il violée pour mériter d'être lapidé? Et en fait, la seule loi qu'il avait violée, c'était il avait commis un blasphème en disant qu'il était Dieu. On peut le vérifier dans Jean 10, 33, où ils disent à Jésus, ils leur demandent « Pourquoi vous voulez me lapider ?» Il dit « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Donc les Juifs qui connaissaient les choses à l'époque, ils savaient que Jésus disait qu'il était Dieu. Ne laissez personne vous dire que Dieu n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il est Dieu et il l'a dit. C'est pour ça qu'on a voulu le tuer. Et en fait, lorsqu'il disait « Ego emi, moi je suis », avant qu'Abraham ne vienne à exister, moi j'étais déjà là depuis longtemps, depuis l'éternité. Et dans l'Exode, chapitre 3, verset 14, c'est facile pour ceux qui aiment les maths, 3, 14, c'est pi. Je vous donne ces choses parce que moi ça m'aide à me rappeler des versets, je ne sais pas comment vous faites, peut-être vous n'avez pas besoin de vous en rappeler, vous les connaissez. L'Exode 3, 14, c'est là que Moïse demande à ce buisson ardent, à Dieu qui l'envoie annoncer, libérer son peuple. Il leur dit, mais qui vais-je dire qui m'envoie? Et il lui répond en hébreu, je suis celui, tu diras, c'est celui qui dit, je suis celui qui est. Je suis l'auto-existant, celui qui existe depuis l'éternité future jusqu'à l'éternité, depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Il dit, je suis celui qui est. Et rappelez-vous, là, c'est très important ça, pour valider beaucoup de prophéties. Ça s'écrit LXX. LXX, c'est la Septuaginte, 70 en latin. On parle de cette traduction en grec de l'Ancien Testament, qui a été écrit, lui, en hébreu et un peu en hébreu essentiellement. Et le roi Ptolémée, à peu près 300 ans avant Christ, a fait traduire l'Ancien Testament en grec, parce que les Grecs étaient devenus une des puissances principales. Le grec avait remplacé, même parmi les Hébreux, ils parlaient, les descendants des Hébreux, ils parlaient grec. Et donc il a dit, il faut faire une traduction de l'Ancien Testament écrit en hébreu en langue grecque. Et ça, c'était 250, c'était 3 siècles avant Jésus-Christ. Et on a le texte, on a conservé, et lorsqu'ils traduisent Je suis celui qui est, celui qui suit. C'est pas de bonne grammaire, mais c'est une théologie formidable. Exode 3,14, comment est-ce qu'ils traduisent ça? Ils traduisent « ego eimi ». Je suis celui qui est, moi je suis. Et donc lorsque Jésus dit « qui suis-je ? Moi je suis, moi je suis », ils savent tout de suite qu'il fait référence à Dieu qui dans le buisson ardent disait à Moïse « je suis celui qui est auto-existant ». Donc ne laissez pas les témoins de Jéhovah et quiconque d'autre pour cela vous dire que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il l'a dit clairement. Nous, ça nous passe au-dessus de la tête parce qu'on ne connaît pas la Septuagint, on ne sait pas ce qui était dit en grec ou en hébreu. Mais dès qu'on creuse un peu, vous pouvez rétorquer, vous leur demandez comment tu expliques que dans les 3 siècles avant Jésus-Christ, quand ils ont traduit « Je suis celui qui est », ils ont dit le même mot que celui que Jésus-Christ a déclaré. Et c'est pour la seule raison, le blasphème, parce qu'il avait dit qu'il était Dieu. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et donc, cette petite ville de Bethléem, elle a une importance clé. On aurait pu penser que Dieu, pour s'incarner, puisque on parle de l'incarnation, de la première venue de Jésus-Christ sur la terre, il est né dans la race humaine, c'est ce qu'on célèbre à Noël, même si ce n'est pas la bonne période de l'année. On le fait parce que c'était une fête religieuse du solstice d'hiver, où les jours finissaient par finalement recommencer à rallonger. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un peu déprimé en ce moment quand je vois qu'à 4h30, il fait presque nuit déjà. Et on peut imaginer, lorsque les gens voyaient la journée décliner, la luminosité décliner, ils étaient un peu désespérés, quoi. Ceux qui le voyaient pour la première fois, ou ceux qui en avaient la conscience pour la première fois, se disaient, mais zut alors, on va vivre dans le noir pour le restant de nos jours. Et puis on voyait, il y avait le solstice, les jours commençaient à rallonger, à partir du 21 décembre à peu près, et là ils faisaient la fête. Ah, c'est une fête de soulagement. Et pour nous tous, Noël, ça doit être une fête de soulagement. Il y a de la lumière, il y a de l'espoir, on n'est pas perdu. Donc c'est un très beau symbole, et c'est pour ça qu'au lieu de le célébrer au printemps, qui a probablement été la date de naissance de Jésus-Christ, parce qu'on sait que les bergers étaient dans les champs, alors qu'à Noël, à la période de décembre, il fait très froid, il peut faire très froid, il peut y avoir de la neige autour de Jérusalem. Cette fête, c'est là que Jésus-Christ, qui est Dieu, est né. Et il y a cette prophétie, il va dominer sur Israël. Et puis, c'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Là, encore une fois, on a parlé des prophéties, qu'il y a plusieurs plans qui se montrent, qui se présentent dans la vision du prophète. Il y a souvent un accomplissement immédiat, un accomplissement à moyen terme et un accomplissement ultime à la fin des temps. Et de cette petite ville, on aurait pu penser qu'il allait choisir une ville importante comme Jérusalem ou une ville grecque ou Rome, la capitale du monde à l'époque. Non, il est parti de quelque chose d'insignifiant. Une petite ville qui était mentionnée par ailleurs, elle est mentionnée par ailleurs dans la Bible pour être la ville où était né le roi David. C'est pour ça que l'empereur Auguste, obligeant les gens à aller se faire recenser dans leur ville d'origine, joue dans les mains de Dieu parce qu'il renvoie la famille de Joseph et Marie, il les envoie à Bethléem, alors qu'ils étaient, eux, à Nazareth. Et sans le savoir, cet empereur puissant est en train d'accomplir la prophétie lorsqu'il décrète que tous les Juifs doivent se faire recenser dans leur ville d'origine. Dieu aime bien faire de grandes choses avec des choses apparemment insignifiantes. Il aime bien surprendre les hommes. Nous, on a des valeurs où on aime bien ce qui est grand, ce qui est reconnu, mais il va pas prendre des rabbins célèbres pour en faire ses apôtres, il va prendre des gens insignifiants. Il va prendre des pêcheurs, des collecteurs d'impôts qui étaient haïs, comme Matthieu. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager tous, sauf si on est un people. Et même les people, il peut les utiliser. Si ce que Dieu cherche, c'est pas le statut social, c'est pas la richesse, c'est pas l'éducation. Ce qu'il veut, c'est votre cœur. Est-ce que votre cœur est de plaire à Dieu, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'honorer, pour le glorifier, pour le louer? Et cette petite ville, elle symbolise justement cette possibilité de quelque chose d'insignifiant, d'être un lieu majeur dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'éternité. C'est le moment où le Dieu éternel a touché notre sol, notre terre. Le mot de Bethléem, Beth c'est la maison, Lehem ou Lehem c'est le pain. Donc c'est la maison du pain, donne naissance au pain de vie. C'était approprié. Il est vraiment la source de vie spirituelle. C'est seulement par lui qu'on peut avoir une vie spirituelle réelle. Et il disait, la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu et celui Jésus-Christ qu'il a envoyé. En lui, dans Colossiens 2, 9, 10, en lui habite la plénitude de la divinité. Et vous êtes complet en lui qui est la tête de toutes les principalités et des puissances. Quand on vient à Jésus-Christ, on ne va manquer de rien. On n'a pas... Parce qu'en fait, on dit oui, mais c'est bien beau, mais spirituel, mais comment je vais manger, comment je vais... En fait, ce qui compte, c'est d'avoir cette relation avec lui. Et à partir de cette relation, lui nous bénit. Dieu est un Dieu qui est puissant et qui nous aime. Et il veut bénir sa création. Si sa création le rejette, il ne peut pas forcer la main des hommes et de la nature qui le rejette, mais des hommes qui le rejettent. Mais son profond désir, ce n'est pas de punir, ce n'est pas d'exclure, c'est au contraire de bénir. Et c'est l'invitation qu'il vous fait de venir à lui, lui qui est venu sur terre. Alors après, c'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Il peut y avoir... l'idée que c'est lui qui va venir par Marie, être conçu sans péché, par le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit qui va prendre le pouvoir sur Marie et faire qu'il va naître dans la race humaine. Mais c'est aussi, si on regarde dans l'Apocalypse, le fait qu'il y a une femme qui accouche, et c'est Israël qui accouche du Sauveur de l'humanité. Il se présenterait verset 3 et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Jésus est appelé le Prince de paix. Aujourd'hui, on fait des traités, on essaye de faire des accords entre puissances, entre groupes, pour amener la paix. On voit malheureusement que sans Jésus, on n'arrive pas à rétablir la paix. On parle des souffrances atroces. La communauté internationale est en train de dire que ce qui se passe en ce moment à Alep est inimaginable de violence, d'injustice, de mort. C'est la guerre dans son état le plus aveugle, le plus terrible. Mais tant que les gens ne reconnaîtront pas Jésus comme le prince de la paix, c'est lui qui va ramener la paix lorsqu'il va revenir. Lorsque l'Assyrien, verset 4, viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous enverrons contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Alors là, on sait que les Assyriens allaient envahir Samarie et emmener en déportation le peuple du royaume du Nord. Mais comme j'ai dit, l'Assyrien, ça représente... ils étaient tellement cruels, ils étaient tellement des ennemis que ça finit par désigner l'ennemi dans certains passages. Donc il y a une vision en l'an 722. Donc dans quelques années, les Assyriens vont emmener les Israélites du Nord en déportation. Ils vont attaquer aussi Jérusalem, le royaume du Sud, mais... parce que le roi Ézéchias avait été influencé par le livre de Michée, le livre d'Ésaïe, il s'était repenti, et c'est seulement en 586 que le nouvel empereur du monde, le roi Nabuchodonosor de Babylone, va attaquer et détruire et emmener le peuple de Juda, la ville de Jérusalem, en déportation. Lorsqu'il est dit... nous enverrons contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Là aussi, on voit, ça fait allusion, donc, premièrement, à quelque chose qui était imminent, et aussi à la fin des temps, lorsqu'il y aura un retour de Jésus-Christ sur la terre, qui aura la fameuse bataille d'Armageddon, la colline de Megiddo, une plaine qu'on peut voir aujourd'hui en Israël, c'est la colline ou la montagne de Megiddo, c'est la plaine qu'on peut voir, un endroit où il y a eu des batailles dans l'Antiquité, des batailles avec dans les temps modernes, même dans la Deuxième Guerre mondiale, sous Napoléon aussi, il y a eu des batailles là, mais il y aura une bataille où Jésus-Christ et les saints, ceux qui viendront avec lui, réduiront toutes les nations, il y aura une coalition des nations, il les réduira, il les battra et instaurera un royaume de 1000 ans sur terre. Donc c'est le prince de paix qui va instaurer une paix qui sera par une première bataille. Et le reste du chapitre 5, c'est un encouragement pour les Israélites, de dire qu'il y a ce qu'on appelle le reste de Jacob, le reste d'Israël. Si on fait une division de 11 par 10, il va une fois 10, et puis il reste 1. Si on divise 9 par 10, il y a 0, il reste 9. Le reste, ce n'est pas nécessairement tout petit. Le reste, c'est par opposition à ceux qui ne sont pas sauvés, à ceux qui ne viennent pas à Jésus-Christ. Mais c'est un thème récurrent dans la parole de Dieu. Il est question du reste de Jacob, le reste d'Israël. Ce sont tous les Juifs qui vont finalement reconnaître que Jésus-Christ est le Messie. Alors aujourd'hui, de nos jours, il y a ce qu'on appelle les mouvements juifs messianiques. Ce sont des juifs qui reconnaissent qu'en fait le Messie, tant attendu par tous les juifs, il est déjà venu une première fois et qu'il va revenir. À la fin des temps, il y aura aussi un témoignage. L'Église sera enlevée élevé avec Jésus-Christ, qui viendra chercher tous ceux qui l'ont reconnu comme leur sauveur et le Messie. Il va enlever l'Église et il va rester sur terre pour la période de la grande tribulation des Juifs, des païens. Et pendant ce temps-là, pendant cette période de la grande tribulation, les Juifs, beaucoup de Juifs se tourneront vers Jésus-Christ. C'est les prophéties de la fin des temps. Et donc ce reste, il est dit d'abord, le reste de Jacob, verset 6, sera au milieu des peuples nombreux, pareil à une rosée qui vient de l'Éternel, pareil à des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des humains. Très belle image pour dire que les Juifs qui vont demeurer, qui viendront à Christ, seront comme de la rosée. La rosée, c'était quelque chose. Aujourd'hui, on est moins émerveillé par la rosée parce qu'on sait que c'est la condensation d'eau qui est dans l'atmosphère, qui se condense sur des parties froides et que ça fait des petites gouttes d'eau. Et que ça amène de l'eau qui fait pousser les plantes. Mais pour les Juifs qui n'avaient pas cette connaissance scientifique, c'était quelque chose un sujet d'émerveillement. Le matin, ils voyaient que quelqu'un, c'est comme si quelqu'un était passé la nuit pour arroser. Et on voyait toutes ces petites perles d'eau qui reflétaient la lumière en la décomposant en petit arc-en-ciel sur chaque petit brin d'herbe, sur chaque petit. Tiges de plantes. Et donc c'est cette idée que être pareil à la rosée, c'est bien, c'est très bon, c'est nourrissant, c'est apaisant, c'est désaltérant, ça donne la vie. Et donc les Juifs seront tous ces chrétiens juifs. On a souvent l'habitude de dire chrétiens ou juifs, mais il peut y avoir des juifs chrétiens et des chrétiens juifs. Chrétien, ça veut dire être des petits Christ, c'est-à-dire avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre maître et sauveur. Et donc c'est le triomphe de ces juifs qui seront devenus chrétiens. Et puis ils vont participer aussi au jugement, parce que verset 7, il est dit, le reste de Jacob sera parmi les nations au milieu des peuples nombreux, pareil à un lion. Donc on passe de la rosée, on peut être à la fois comme de la rosée, mais aussi comme du lion, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, pareil à un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il piétine et déchire sans personne pour délivrer ses victimes. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient supprimés. Dieu est un Dieu d'amour, mais il doit détruire ce qui s'oppose à lui et surtout ce qui s'oppose au salut des autres. Et aujourd'hui, dans notre société du bien-pensant, de la bien-pensance, c'est très mal de dire des choses pareilles, de dire qu'on détruit des adversaires. Mais en même temps, lorsqu'on voit ce qui se passe avec certains groupes qui habitent dans les mêmes régions où ces choses se passaient aujourd'hui, on peut avoir le cœur rempli de colère et souhaiter des destructions. Que ta main se lève sur tes adversaires, que tous tes ennemis soient supprimés. Si vous aimez quelqu'un, vous allez détester ceux ou celles qui menacent cette personne. Si vous avez un enfant ou un petit enfant, une petite fille au hasard, et que vous voyez un gros serpent qui rôde sur le rebord de la fenêtre, alors que l'enfant est dans son berceau, dans son lit à côté, vous êtes peut-être écolo. Peut-être que vous militez pour les serpents, parce que ce sont des animaux intéressants, des animaux qui prennent des insectes, qui font le ménage. Mais à ce moment-là, je peux vous garantir que vous allez vouloir détruire ce serpent, ou au moins éviter Mais si vous voyez qu'il y a un danger imminent, vous allez vouloir détruire. Et lorsque Dieu parle de détruire ses adversaires, c'est parce qu'il nous aime tant qu'il ne veut que rien ne puisse nous mettre entre, se mettre entre lui et ces personnes qu'il aime tant, au point d'avoir donné lui-même sa vie. Donc, lorsqu'on parle du Dieu sanguinaire de l'Ancien Testament, c'est qu'on n'a pas compris que c'est une face de l'amour de Dieu pour sa création. Et si on choisit de se mettre contre lui, il va montrer à la fin que c'est lui le plus fort. Ce jour-là, il va parler de la régénération d'Israël. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je supprimerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. Je supprimerai les villes de ton pays et je renverserai toutes les forteresses. Je supprimerai de chez toi la magie et tu n'auras plus de devins. Je supprimerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant ce que tes mains ont fabriqué. J'arracherai du milieu de toi tes poteaux sacrés et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur contre les nations qui n'ont pas écouté. Dieu va purifier Israël. Il va le faire dans une première réalisation lorsque les Juifs vont partir en captivité, mais aussi à la fin des temps. Il va nettoyer. Et ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut qu'on ne dépende plus d'autre chose que de lui. Les Juifs comptaient sur leur propre force militaire, leurs alliances avec des pays étrangers contre les menaces géopolitiques. Il dit : « Je vais supprimer du milieu de toi tes chevaux. Ton armée, je vais l'enlever. Je détruirai tes chars. Je supprimerai les villes de ton pays, je renverserai toutes les forteresses. » Est-ce que nous aussi, il y a des choses sur lesquelles on compte plus que sur Jésus lui-même, que Dieu lui-même ? Il veut supprimer tout ce qui est occulte. « Je supprimerai de chez toi la magie et tu n'auras plus de devin. » Je suis toujours surpris que lorsqu'on dit qu'on est croyant, on passe pour des gens anachroniques, pour des gens rétrogrades, des imbéciles. Mais ces mêmes gens qui ne veulent pas croire à l'histoire historique de la Bible sont les premiers à consulter leurs astrologues. Et si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça, on se demande bien pourquoi dans chaque journal, dans chaque magazine, il y a des horoscopes. Et Dieu... Alors, souvent, les gens disent, mais c'est intéressant parce que il y a des choses qui ont l'air vraies dans les pronostics ou dans la description du caractère. Si je suis né à telle époque, quand Mars était dans telle partie du ciel, j'ai un peu le même caractère que quelqu'un qui est né 15 ans plus tard, mais... Le diable peut utiliser certaines choses pour nous détourner de la foi en Dieu. Il peut y avoir des puissances occultes qui animent ces horoscopes et toute cette astrologie. Ne touchez pas à ça. Éloignez-vous de ça. C'est une abomination devant l'Éternel. C'est très clair, il y a des passages dans le Deutéronome qui disent que pour Dieu, c'est une insulte de penser que des étoiles ont plus d'importance que le créateur des étoiles pour votre vie. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas parce qu'on est né à tel moment. Il y a un Dieu qui vous a créé, qui vous aime et qui veut que vous le connaissiez en Jésus-Christ. Il veut enlever donc les forces, les ressources défensives ou d'attaque que l'on croit avoir. Il veut qu'on fasse une croix, la croix de Christ, sur tout ce qui est occulte. Il veut aussi supprimer tout ce qui est idole, tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Et là, il parlait de ce que leurs mains avaient fabriqué. Il y a des passages remarquables où Dieu, par sa parole, se moque de ses idoles. On prend un bout de bois, on en coupe une moitié, une première moitié on va l'utiliser pour faire du chauffage ou pour faire la cuisine, et puis l'autre moitié on va la sculpter, on va dire c'est mon idole et on va se mettre à offrir des sacrifices. Mais pourtant ces idoles, elles sont muettes. Elles ont des oreilles mais elles n'entendent pas, elles ont des bouches mais elles ne parlent pas. Et pourtant nous sommes là à mettre d'autres choses à la place de notre relation avec Dieu pour notre vie. Dieu veut supprimer ça de notre milieu. J'arracherai du milieu de toi tes poteaux sacrés, les Achéras, je détruirai tes villes, tout ce qui était de l'idolâtrie. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. C'est le dernier mot de l'apôtre Jean, dans 1 Jean. Gardez-vous de l'idolâtrie. Est-ce que j'ai de l'idolâtrie dans mon cœur? Est-ce que je passe plus de temps à regarder, à lire des magazines concernant les autos ou les ordinateurs qu'à lire la parole de Dieu? Alors c'est pas une question qu'il faut lire la parole de Dieu, mais si on a compris quelque chose, si on a reçu de Dieu, on va être heureux de pouvoir lire la parole de Dieu. Au lieu de se dire « Ah, il faut que je fasse », non, je ne peux pas ne pas lire la parole de Dieu, parce qu'elle me fait du bien, elle parle à mon cœur, elle m'encourage, elle me reprend, elle est belle. J'ai déjà partagé cette anecdote. On avait une personne qui n'était pas encore chrétienne. Elle était venue dans un groupe de maison et on lisait des passages et on discutait de ces passages entre chrétiens. Elle était là et on disait « Qu'est-ce que tu as retenu du passage ?» Et on partait tous dans une direction un peu théologique ou un peu faisant appel à d'autres passages. Puis elle nous a dit « Mais en fait, moi, tout ce que je remarque, c'est « Qu'est-ce que c'est beau ?» C'est beau ce qui est dit dans la parole de Dieu, les vérités qui sont révélées, on doit être sensible à la beauté, à l'amour qui est montré là par Dieu. Et puis, il explique sa colère finale, verset 14, « J'exercerai ma vengeance avec fureur contre les nations qui n'ont pas écouté. » Dieu va remettre les pendules à l'heure, comme on dit. On a souvent l'impression que Dieu n'est pas là parce qu'on voit le méchant prospérer, on voit des choses inouïes qui sont apparemment permises. Mais c'est le temps de la patience de Dieu. Il veut que tous viennent à la connaissance de la vérité en Jésus-Christ. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur contre les nations qui n'ont pas écouté. Dieu est un Dieu d'amour, mais encore une fois, l'amour, il s'oppose à la destruction de ceux qui refusent l'amour. Purification du reste d'Israël, donc on parle du peuple d'Israël qui restera à la fin des temps, mais on sait aussi que nous sommes le peuple de Dieu et que Dieu veut aussi que ces choses, elles s'appliquent non seulement à Israël, mais elle s'applique à moi. Amen. Prions. Seigneur, on est des fois surpris par la façon dont tu peux prononcer des jugements. Mais Seigneur, on comprend que ce n'est pas faute de patience, notamment avec ton peuple d'Israël, Seigneur, que tu as pardonné, tu as envoyé des juges, tu as envoyé des personnes pour remettre ton peuple sur le bon chemin. Seigneur, tu nous as finalement envoyé Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et tu veux que nous marchions à sa suite, tu veux que nous vivions pour être en harmonie, pour être tes enfants marchant avec toi, Seigneur. Aide-nous à combattre toutes ces choses, l'idolâtrie, la dépendance sur des choses autres que toi-même, tout ce qui est occulte, tous les péchés, Seigneur, qui nous entourent et qui peuvent nous subjuguer, Seigneur. Et c'est le mot parce que tu dis que celui qui pêche est esclave du péché. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est encore le temps de ta grâce, c'est encore le temps du pardon. Et ce matin, nous allons prendre la Sainte Cène qui nous le rappelle. Seigneur, merci pour cette provision que tu as faite pour que nous puissions nettoyer notre ardoise, Seigneur. Tu nous as déjà pardonné tous nos péchés, mais Seigneur, nos péchés nous font du mal parce qu'ils nous donnent un sentiment d'éloignement de toi. On n'ose plus venir à toi, Seigneur, et tu veux nous dire que nos péchés sont pardonnés, que tu les as enfoncés au fond de la mer, qu'ils sont aussi loin de toi que l'Est et de l'Ouest. Seigneur, sois glorifié. Parle-nous tout au long de cette semaine. Amen.